France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Je crois que l'image d'un pays qui met des femmes en prison, c'est de moins en moins accepté. C'est vrai que ça existe toujours, mais il serait plus sévèrement jugé par l'opinion publique.
Le conflit entre les maoïstes et le gouvernement prend une tournure de plus en plus violente. Et nous, les Adivasi, sommes ceux qui en payent le prix.
Amnesty International nous aide beaucoup. Nous sommes un peuple pauvre et nous n'aurions jamais pu nous battre sans leur aide.
Elle s'appelait Marielle Franco. Cette Brésilienne au large sourire a été abattue le 14 mars à Rio de Janeiro. Elle dénonçait les violences policières et défendait les droits des jeunes, des femmes et des homosexuels. La Marocaine Nawal Benaïssa a été placée en détention à 4 reprises et a dû déménager pour échapper aux pressions. Son tort, réclamait une vie meilleure, comme tant d'autres manifestants de la région du Rif qui se sentent délaissés par l'État marocain. Quant à Pavirti Manji, elle a été menacée chez elle par des hommes de main. Elle fait partie des Adivasi, les aborigènes de l'Inde, et sa communauté risque d'être expulsée de terres ancestrales pour laisser la place à des centrales électriques. N'oublions pas ces femmes, demande Amnesty International, ces militantes des droits humains, discriminées, harcelées, emprisonnées, voire tuées. Comme chaque année, autour de la Journée internationale des droits de l'homme, l'ONG lance sa campagne mondiale d'écriture de lettres, 10 jours pour signer. Elle appelle à se mobiliser en signant des pétitions, en rédigeant des lettres de soutien ou en écrivant directement au gouvernement pour leur demander la fin des poursuites ou la libération des défenseurs des droits fondamentaux. 10 jours pour signer, un grand reportage coordonné par Eric Piegala. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons aujourd'hui Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International France, et Katia Roux, chargée de plaidoyer Liberté chez Amnesty France. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Dans votre campagne 10 jours pour signer, vous mettez en avant 10 situations. Nous allons en évoquer plusieurs et nous allons écouter 2 reportages. Bonjour Eric Piegala.
Bonjour Aurélie.
Vous avez choisi pour commencer de nous emmener au Maroc, dans la région du Rif.
Oui, alors le Rif, on se souvient du mouvement du Rif, le Hirak al-Rif. Hein, il a commencé comme un printemps arabe tunisien, avec des manifestations suite à la mort d'un vendeur de poissons. Son stock avait été saisi par la police. Alors c'était un poisson qu'il n'était pas censé avoir pêché, je ne sais pas, parce que la saison était probablement pas la plus propice. Et la police avait jeté toute sa pêche tout simplement dans une benne à ordures, un camion benne en fait, et c'est en essayant de récupérer son stock que le vendeur a été happé par cette broyeuse et qu'il en est mort. Les manifestations qui sont suivies, hein, notamment à Al-Hoceïna dans le Rif, ont défrayé la chronique pendant toute la fin de l'année 2016 et une bonne partie de l'année 2017. Et en fait, tout ce mouvement du Rif a commencé et s'est poursuivi comme ça. Et Sarah Doublier, notre correspondante donc au Maroc, nous raconte dans le reportage qu'elle nous a envoyé et cette mobilisation du Rif marocain et sa répression, la répression qui a suivi.
On écoute tout de suite ce reportage de Sarah Doublier.
Mi-novembre à la cour d'appel de Casablanca. Dans ce quartier industriel, boulevard des Forces Armées Royales, la circulation n'est jamais fluide. Pourtant, un calme étrange règne aux abords du tribunal. Ce jour-là, s'ouvrait un chapitre important au feuilleton judiciaire du Rif, le procès en appel des plus importants leaders du mouvement Hirak, déclenché il y a plus de 2 ans dans cette région déshéritée d'Al-Hoceïma, dans le nord-est marocain. En première instance, des peines allant d'1 à 20 ans de prison ferme ont été prononcées. Les plus lourdes pour atteinte à la sûreté de l'État concernent notamment Nasser Zefzafi, considéré comme le leader charismatique du mouvement. À l'annonce du verdict le 10 juin dernier, la société civile se réunissait dans tout le pays en protestation à Casablanca. L'avocate Saïda Rouissi manifestait.
Pour moi, c'est une régression. Les jugements étaient de la vengeance parce que ces rifains, ils sont sortis pour des revendications légitimes. Ils sont innocents.
Pendant près d'un an, après la mort du poissonnier Mohsen Fikri en octobre 2016, Nasser Zefzafi mène la contestation dans le Rif. Des manifestations pacifiques pour protester contre les conditions socio-économiques de la région. On y réclame des hôpitaux, davantage d'infrastructures. Nous sommes au début du mois de juin 2017. Nasser Zefzafi est arrêté et transférée pour jugement à Casablanca avec une cinquantaine d'autres militants. Rifat, manifestant et instituteur à Al-Hoceima, réclame dans la rue la libération des militants.
Oui, on va sortir tous les soirs jusqu'à la libération des détenus politiques qu'on a, Nasser Zafi et tous les membres du Hirak de l'Al-Hoceima. On va rester indéfiniment, on va rester toute notre vie jusqu'à la libération de nos détenus politiques. Parce que c'est un combat légal, c'est un combat social, c'est un combat qu'on va lutter toute notre vie.
Début juin, soir de Ramadan. Après la rupture du jeûne, chaque soir jusqu'à minuit environ, 5000 manifestants se réunissent dans le quartier de Sidi Abed. Dans la rue principale, on y installe des baffes et des micros. Après l'arrestation de Nasser Zefzafi, c'est Nawal Ben Aïssa qui prend la parole et harangue les manifestants. Son statut de mère au foyer n'a pas eu raison de son engagement, nous expliquait-elle alors.
Moi, je n'appartiens à aucune association. Mon engagement est une initiative personnelle. À tout moment, je sais que je peux être emprisonnée. Mais la prison, ce sera un honneur pour moi, car je sors dans la rue pour revendiquer des droits universels. Après l'arrestation des activistes du mouvement, nous, les femmes, nous n'avions pas d'autre choix que sortir pour soutenir nos enfants, nos maris, nos pères, pour exiger leur libération immédiate. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Et nous devons montrer que nous ne céderons pas.
إطلاق سراح جميع المعتقلين وتلبية الملف الحقوقي.
Dans ce mouvement, les femmes ont pris une place inattendue, partie prenante dans une société rifaine que l'on dit profondément conservatrice. Elles occupent les cortèges et sortent crier la libération de leurs détenus.
Chacune des femmes, elle a des enfants à la maison qui sont chômeurs.
Les femmes, maintenant, elles travaillent ici, tout. Depuis 7 mois, on sort, tous. Même les vieilles, les femmes, les enfants, tous.
Selmiya, la paix, obsession des manifestants qui réfutent les accusations de casseurs aux idées séparatistes. Aux côtés de Nawal Ben Aïssa qui prend la parole, Sidia Ziani, jeune chanteuse d'Al-Hoceima. Elle écrit des slogans militants. Au cours de l'été, on parle de féminisation du mouvement. Pourtant en juin, Sidia Ziani est arrêtée puis transférée à son tour pour être jugée à Casablanca. Le symbole mobilise l'opinion. Lors de ses comparutions, les rassemblements appelant à sa libération se multiplient. Soraya Kahlaoui est coordinatrice du comité de soutien des détenus.
N'oublions pas que c'est une jeune artiste, elle a 23 ans. Elle est donc très jeune et bien évidemment elle ne s'attendait absolument pas ni à être emprisonnée et encore moins à être emprisonnée sous des charges d'inculpation extrêmement lourdes, atteinte à la sûreté de l'État, etc. Et c'est vrai que voilà, toute cette pression politique atteint l'état santé mentale de Sidia, on le comprend bien. Et c'est la raison pour laquelle on est venu aujourd'hui demander sa libération immédiate.
Un mois plus tard, Sidia Ziani est libérée sur grâce du roi Mohamed VI. Pendant un mois et depuis Rabat, Khadija Riadi, figure des droits de l'homme au Maroc, coordonne durant tout l'été une campagne internationale pour défendre ces femmes militantes poursuivies par les autorités.
Ce Hirak a montré que cette stigmatisation des sociétés, des régions, n'est pas toujours vraie.
Et justement, qu'est-ce que vous pensez il n'y a aujourd'hui plus de femmes en prison, des femmes du Hirak, notamment les deux plus célèbres, Nawal et Sidia, qui ont été poursuivies. Aujourd'hui, on a l'impression que Sidia a été graciée par le roi. Est-ce qu'il y a une indulgence vis-à-vis des femmes?
Je crois que l'image d'un pays qui met des femmes en prison, c'est de moins en moins accepté. C'est vrai que ça existe toujours, mais il serait plus sévèrement jugé par l'opinion publique quand il met des personnes en prison. Surtout maintenant, il s'agit de personnes qui n'ont pas des appartenances politiques, qui n'ont pas une histoire d'opposition. C'est vraiment des gens, comme on dit, « normaux », entre guillemets, qui en ont marre, qui sont sortis dans la rue parce qu'ils veulent que les choses changent. Donc mettre des femmes comme de ce genre en prison, ça paye. Politiquement, il est plus cher. En plus, les accusations données à ces personnes, collaboration avec l'étranger, de séparatistes, de recevoir de l'argent douteux, etc. Ça, ça colle pas avec les femmes. On le croit déjà pas avec les hommes qui sont actuellement en prison. Alors pour accuser encore des femmes de ce genre, ce serait encore plus ridicule.
On dirait une dizaine, quinzaine de jours, Nawal a été ce qu'on appelait la figure féminine du Hirak. Ouais. Peut-être que ça tombait au moment où il y a beaucoup de presse internationale à l'Oseima qui a vu cette femme haranguer les manifestants. Mais on a très vite vu qu'elle a été, on va dire, écartée parce qu'il y avait cette volonté de dire non, elle n'est pas la nouvelle Zefzafi. Et est-ce qu'il y a une forme aussi, le machisme peut-être, qui reprend le dessus dans ces situations-là où...
Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelque chose qui a été diffusé, divulgué par les autorités aussi, pour la discréditer, pour ne pas trouver devant, pour que les autorités ne trouvent pas encore un autre Zefzafi. Et en plus, une femme, on peut dire les deux cas, c'est-à-dire soit la société qui n'a pas supporté une femme à la place de Zefzafi, soit aussi les autorités, c'est très probable.
Selon les défenseurs du mouvement, plus de 160 personnes sont encore en détention au Maroc pour leur participation aux manifestations de Hirak du Rif.
Nawal Benaïssa, l'une des voix du mouvement du Rif, un reportage de Sarah Doublier. Et ce matin, Eric Bigala, vous avez pu rencontrer Nawal Benaïssa de passage à Paris.
Ce n'est pas la première fois que le Rif se soulève et qu'il y a des protestations, même si les manifestations sont opprimées par l'État. Je résumerai la politique de l'État par ce trio, marginalisation, privation, oppression. Et donc je rappelle qu'en 1958-59, il y a eu des protestations, des manifestations, dans les années 80 également, puis en 2011, et aujourd'hui, donc en 2016, le Hirak. C'est la continuité en fait de nos demandes et de toutes ces protestations. Nous voulons nos droits. Nous voulons le droit à l'éducation, à la santé, au travail, car nous sommes privés de tout. Il n'y a rien dans notre région. Et je pense qu'à l'avenir, le mouvement va s'amplifier si la pression continue, car si vous mettez quelque chose sous pression, il finira par s'exploser. Et nous sommes soumis constamment à cette pression.
Vous-même avez été arrêté à plusieurs reprises, au moins 3 ou 4 fois. Vous avez donc été détenu.
Alors après les manifestations conduites par Zefzafi et d'autres militants, j'ai senti que ces manifestations devaient continuer, on ne pouvait pas reculer. Et donc je participais à ces manifestations, j'enregistrais des vidéos que je publiais sur ma page Facebook pour appeler les gens à continuer ces manifestations pacifistes. Et donc j'ai été arrêtée une première fois par la police. Je suis restée 4 heures au commissariat. Une deuxième fois, j'avais publié sur mon blog un appel aussi à manifester. Et là, j'étais à la maison avec mes enfants et puis je vois une voiture de police. Donc la police m'arrête. J'ai dû laisser mes enfants tout seuls plusieurs heures, le plus jeune à 4 ans. Et puis, une troisième fois, j'ai été aussi arrêtée. J'ai subi une énorme pression psychologique. J'ai été interrogée, insultée, menacée de prison. Puis on m'a libérée. Et puis j'ai été arrêtée une quatrième fois. Je suis restée plus de 10 heures au commissariat. Et là aussi, on m'a insultée, on m'a menacée de prison. On m'a dit que j'allais être transférée à la prison de Casablanca et que je serais condamnée à la prison pour plusieurs années. Et puis finalement, j'ai été présentée au procureur général qui a décidé que je devais être surveillée. Donc jusqu'à la peine de 10 mois de prison avec sursis.
Vous avez été condamné, alors vous-même donc à de la prison avec sursis, d'autres à de la réclusion, donc de la prison ferme. C'est en première instance. Finalement, ils ont été condamnés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient commis quel crime où ils étaient accusés de... Et vous étiez accusé de quoi ?
En ce qui me concerne, plusieurs accusations ont été imputées. Incitation à manifester, offense à agents publics. Mais en fait, c'est le contraire. Moi, j'ai été frappée pendant que je manifestais pacifiquement. Avec ma fille de 8 ans, nous avons été frappées toutes les deux. En ce qui concerne les autres, effectivement, c'est des peines extrêmement lourdes et des accusations très lourdes qui pèsent sur eux. Par exemple, atteinte à la sécurité du pays, on les a accusés d'être des indépendantistes. Mais ces accusations sont totalement fausses. Il n'y a pas plus honnête que ces gens-là. Ils veulent simplement le bien du pays, ils veulent le développement du pays et ils veulent des droits.
Où en êtes-vous de la mobilisation ? Il est terminé ? Ce mouvement du RIF, où il se poursuit ?
Bon, comme vous savez, le mouvement Hirak est réprimé, les militants sont emprisonnés, on en est à plus d'un millier de prisonniers actuellement. Certains ont été tués, d'autres militants ont eu des peines de prison de 20 ans. Je crois que c'est un message au peuple marocain pour interdire les manifestations. Et je vous donne un exemple. Il suffit de porter un t-shirt avec l'image de Nasser Zefzafi pour être arrêté, harcelé par la police. Actuellement, beaucoup de jeunes sont partis, d'autres sont morts en tentant de quitter le Maroc. Donc, en gros, la moitié est en prison et la moitié est partie. Quant à moi, je ne participe pas à des manifestations, à des actions, puisque tout simplement, il n'y en a plus. Mais je suis toujours le mouvement. Et donc, comme vous le savez, une peine a été prononcée à mon encontre de 10 mois de prison avec sursis. Donc, j'ai une audience le 13 décembre prochain.
Deux représentantes d'Amnesty France sont nos invitées aujourd'hui, la présidente Cécile Caudriou et Katia Roux, chargée de plaidoyer liberté. Alors vous avez vous-même rencontré Nawal Benaïssa. Quelle impression vous a-t-elle faite ? Qu'est-ce qui se dégage de cette femme, Cécile Caudriou ?
C'est une femme extrêmement impressionnante, car malgré la simplicité qui la caractérise, on sent aussi une force de détermination. Un certain calme aussi, c'est vraiment une détermination calme. Et on sent que les tentatives d'intimidation ont échoué, puisqu'elle n'a pas l'intention de s'arrêter là. Et je trouve que tout son discours est tout à fait symptomatique, tout à fait emblématique plutôt de ce que nous cherchons à défendre à Amnesty International, c'est-à-dire l'idée que ce sont bien des droits universels. D'ailleurs, ça a été dit pendant ce reportage. Et on voit bien à quel point aussi ce sont vraiment les droits dans leur ensemble, puisqu'il y a au départ ces droits économiques, cette aspiration très universelle à la dignité, mais aussi l'impossibilité de s'exprimer dans la rue, de manifester. Donc on voit bien que ce sont aussi des droits civils et politiques qui sont bafoués. Et donc ce que réclament ces personnes, ce sont bien sûr avant tout des droits fondamentaux qui eux-mêmes finissent par conduire à la dignité, quand ils sont tous respectés. Donc on ne peut qu'être admiratif devant son courage. Et on trouve évidemment que cette année en particulier, pour l'édition 2018, il est important de souligner le courage des femmes. Car les 10 personnes que nous mettons en lumière cette année sont toutes des femmes, et des femmes très impressionnantes.
Alors effectivement, est-ce que c'est le mouvement MeToo qui a inspiré ce choix ?
Entre autres, c'est vrai que l'année 2018 a été particulièrement marquée par la résistance des femmes. C'est vraiment une année extrêmement riche, mais c'est pas seulement par rapport aux violences sexuelles, parce qu'on peut penser aussi aux femmes iraniennes si courageuses qui ont manifesté contre le port obligatoire du voile. On pense aussi toujours en Iran à la lutte contre la peine de mort. Il y a bien des situations, malheureusement, en Arabie Saoudite aussi, où c'est le droit de conduire qui était encore pas accordé jusqu'au mois de juin dernier. Et encore aujourd'hui, des femmes qui ont courageusement manifesté sur les réseaux sociaux, entre autres, contre cette forme de tutelle, pour dire les choses rapidement, eh bien, elles sont réprimées, elles sont persécutées. Et donc, bien sûr, le mouvement MeToo, qui a d'ailleurs énormément essaimé, il y a toutes sortes de mouvements dans d'autres continents, d'autres régions du monde, et pas seulement, comme on pourrait le croire, en Amérique ou en Europe, ça va jusqu'en Inde, par exemple, où les femmes disent stop à cette violence sexuelle, à ce harcèlement sexuel permanent, et à l'impunité, notamment en Égypte, où il y a également le cas d'Amal Fati, où justement ce sont les manifestations contre le harcèlement sexuel qui malheureusement l'ont conduite en prison.
Donc elle avait protesté sur Facebook contre le harcèlement sexuel, c'est bien
ça ? Elle avait posté une vidéo sur Facebook. Donc elle a été repérée par les autorités qui sont très promptes ensuite à associer toute forme de militantisme à de la subversion, voire du terrorisme. C'est l'une des constantes aussi dans cette édition. On se rend compte à quel point le militantisme est de plus en plus souvent réprimé et discrédité, vraiment très sévèrement, au nom de la lutte pour la sécurité et contre le terrorisme. Et là aussi, dans le reportage que nous venons d'entendre, effectivement, l'instrumentalisation de la sécurité et du maintien de l'ordre est extrêmement commode, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes militants. Effectivement, dans ces cas-là, on utilise beaucoup cet argument.
Alors, vous parliez d'Amal Fati en Égypte. Katia Roux, est-ce que le harcèlement sexuel, c'est quelque chose que les femmes se mettent à dénoncer? Est-ce que c'est un phénomène récent qui est de plus en plus fort? Parce qu'on a parfois du mal à distinguer l'origine d'un phénomène. Est-ce que les femmes se taisent moins qu'avant? Est-ce que vous sauriez analyser ça?
Alors, malheureusement, il semblerait que c'est un phénomène qui n'est évidemment pas nouveau. Ce qui est peut-être un petit peu nouveau, c'est effectivement du fait de la dénonciation de ce phénomène, du fait du combat mené par ces femmes, des attaques spécifiques à l'encontre de ces femmes qui dénoncent donc les attaques spécifiques liées à leur genre ou à leur identité de femme dont elles sont victimes. Ces attaques-là sont de plus en plus fortes, de plus en plus ciblées, et les dénoncer devient de plus en plus risqué. Effectivement, dans un contexte où la défense des droits humains aujourd'hui expose quiconque, hein, femme et homme, à des attaques, soit des attaques individuelles, soit des attaques sur les communications, soit, comme on l'a vu, un rétrécissement des espaces d'expression de la société civile. Dans ce contexte-là, les femmes défenseurs, comme les personnes qui d'ailleurs travaillent sur les droits des femmes, font l'objet d'attaques spécifiques. Et ces attaques, elles prennent la forme, comme on l'a dit, effectivement, soit de violences sexuelles, soit de campagnes de diffamation ou de stigmatisation stéréotypées. C'est-à-dire qu'effectivement, elles vont subir des pressions supplémentaires en tant que femmes, parce qu'elles dénoncent qu'elles subissent en tant que femmes. Elles font faire l'objet de menaces que des défenseurs hommes ne subissent pas, finalement. Et donc, ces menaces-là, ces attaques-là prennent la forme aussi de pressions supplémentaires au sein de la famille, au sein de la communauté, parce que leur militantisme, leur activité publique est perçue comme remettant en cause les normes sociales établies.
Alors, à l'inverse, sur le cas de Nawal Benaïssa, on avait plutôt l'impression qu'elle avait eu droit à une relative clémence par rapport aux hommes qui étaient dans le mouvement de contestation, puisqu'il y a eu des peines très lourdes pour les hommes, alors qu'elle s'en est pas trop mal sortie, entre guillemets.
Alors, il est difficile d'analyser effectivement sa peine et d'y voir derrière une intention, ou en tout cas la volonté de ne pas trop la punir en tant que femme, entre guillemets. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà aussi de cette condamnation à 10 mois de prison avec sursis, il y a aussi tout un tas de menaces dont elle fait l'objet. Elle le dit elle-même très bien, c'est-à-dire qu'elle reçoit constamment des menaces, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ses comptes personnels. Elle reçoit aussi une pression très forte au sein de la communauté ou dans la société. Donc effectivement, il y a cette persécution judiciaire qui, dans ce cas-là, peut paraître moindre que dans d'autres cas, mais il faut pas oublier tout ce qui est peut-être un peu moins visible et qui aussi pèse de manière très très forte sur ces femmes qui s'engagent, parce que finalement, à un moment donné, elles s'épuisent, elles s'essoufflent. Il faut savoir que le temps que ces femmes-là passent à répondre aux attaques, à justifier leur action, à justifier leur combat, c'est autant de temps qui n'est pas passé justement pour faire avancer la cause. Et c'est bien là aussi toute la logique qui est à l'œuvre derrière, c'est d'essayer de détourner ces femmes de leur combat principal, de les stigmatiser, de se faisant délégitimer la cause pour laquelle elles se battent, et in fine ne pas avoir à s'occuper des causes profondes de la révolte.
Et alors vous dites que les femmes sont prises pour cible parfois en raison de leur genre. Il y a l'exemple de la Kirghize Gulzar Duizenova, j'espère que je dis bien son nom. Elle souffre en fait d'une double discrimination, c'est ça, à la fois en tant que femme et comme personne handicapée.
Oui, en effet, et on pourrait quand même rapprocher ce cas de celui de Amal Fathi, dans le sens où, pour dire les choses rapidement, on considère que la place d'une femme est dans, à la maison ou dans la cuisine, ou même pour le Maroc, d'ailleurs c'est la même chose, pour rajouter à ce qu'a dit Katia, en effet, on peut penser que le fait qu'elle ait été mère de famille a pu jouer avec une forme de paternalisme finalement. Et de,
aller rentrer chez toi maintenant,
voilà,
occupe-toi de tes enfants.
Voilà, c'est un petit peu un premier avertissement, rentrer chez toi, t'occuper de ta famille plutôt que de t'occuper de politique. Donc il y a vraiment ce point commun en effet d'une vision extrêmement traditionnaliste de la femme. Et donc, lorsqu'une femme se met à militer, on considère que c'est doublement un problème, finalement. Surtout quand cette femme, effectivement, remet en cause le gouvernement et sa passivité. Pour en revenir aux violences sexuelles en Égypte, cette vidéo ne consistait pas seulement à dénoncer les violences sexuelles subies, mais également l'impunité. Et ça, c'est d'ailleurs le combat que mène aussi Amnesty International depuis quelques années déjà. Nous avions mené une campagne assez ferme pour demander aux autorités d'être véritablement dans une application de la loi, d'être beaucoup plus ferme dans l'application des peines, puisque c'est quand même bien l'impunité qui fait que les violences sexuelles perdurent à ce point. D'ailleurs, il y a un film remarquable qui en avait fait état, le bus 627, si je me souviens bien le numéro de ce bus, pour montrer que toutes les femmes, qu'elles soient dites modernes ou plus traditionnelles, subissaient ces violences sexuelles. Donc effectivement, dans des situations, dans des sociétés extrêmement traditionnalistes, extrêmement axées sur une femme qui doit garder son rôle, etc., c'est doublement insupportable. Et donc l'intimidation est encore plus grande et le courage doit être encore plus fort. Et souvent, et c'est là que nous avons vraiment envie de rendre hommage au courage de ces femmes cette année, nous avons bien pu observer à quel point dans bien des régions du monde, malgré cette persécution, malgré cette intimidation, malgré parfois des risques encore plus grands, comme dans le cas de Marielle Franco, c'est allé jusqu'à l'assassinat, eh bien les femmes ne se taisent pas. Elles disent au contraire, ça les a rendues d'une certaine façon plus fortes et plus déterminées encore pour continuer de porter très haut et fort leur voix. Et c'est pourquoi c'est important pour nous, en tant qu'ONG internationale, de faire appel à la solidarité justement internationale des citoyens et des citoyennes, parce que nous savons très bien que ce qui donne de la force, c'est le fait de se sentir soutenu au-delà de leurs frontières, notamment justement... Pour reparler du RIF, il est clair que Nawal a été extrêmement impressionnée par le soutien. Elle le disait justement il y a quelques jours lors de l'émission en partenariat avec le Courrier International, en disant que recevoir des messages du monde entier, de personnes qu'elle ne connaît pas et qui lui assurent tout leur soutien et qui sont vraiment très sensibles à cette cause, parce que justement elle est universelle. Encore une fois, c'est l'aspiration à la dignité, à pouvoir vivre dignement, qui est quelque chose de partagé par tout citoyen. Et nous, c'est notre rôle de mettre à l'honneur, notamment quand c'est le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, non seulement le caractère indispensable de ces droits, mais aussi la possibilité pour tous et toutes de les défendre. C'est ça le message clé dans ces 10 jours pour signer.
Alors, Cécile Caudriou, vous soulignez le poids des traditions, du patriarcat. On peut peut-être mentionner, Katia Roux, le cas de Vitalina Koval, qui défend les droits des personnes LGBT en Ukraine, puisque voilà, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui est encore très difficile de défendre aujourd'hui dans un certain nombre de pays.
Absolument. Il faut savoir que certaines causes, et la défense des droits des personnes LGBTI en fait partie, sont extrêmement sensibles. Pourquoi ? Parce que souvent, ce sont ces personnes-là, celles qui sont victimes, qui sont visées, qui doivent bien souvent mener le combat. Et donc, elles sont visées à la fois pour ce qu'elles font et ce qu'elles sont. Donc, c'est vrai aussi pour, d'ailleurs, les droits des femmes, les personnes LGBTI aussi. Vitalina est un cas assez emblématique de la répression à l'encontre, effectivement, de ces activistes-là. Il y a beaucoup d'autres, finalement, sujets qui ont émergé ces dernières années, qui montrent que les attaques ne sont pas nouvelles. La forme des attaques, l'intensité des attaques, la diversité de ces attaques, elles, sont inédites. Et donc, le droit des femmes, le droit des personnes LGBTI, on en parlera peut-être aussi après, le droit des peuples autochtones, la lutte contre les discriminations ou encore les inégalités sociales, économiques ou la défense des droits des migrants font partie de ces combats-là qui sont aujourd'hui extrêmement sensibles, qui exposent de manière très forte celles et ceux qui se battent. Et effectivement, ce n'est peut-être pas un hasard si 50 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont adopté une autre déclaration dont on fête aujourd'hui les 20 ans, c'est la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains, parce qu'aujourd'hui, il est primordial de défendre ceux qui défendent les droits.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Alors, deuxième reportage dans le cadre de cette campagne d'amnesty 10 jours pour signer. Cette fois, Eric Begala, vous nous présentez la situation d'une communauté autochtone indienne.
Oui, ça s'appelle les Adivasis. On vous emmène en fait dans le centre de l'Inde, hein, dans l'état du Chhattisgarh, qui est donc au centre-ouest du pays, de cette immense péninsule du Deccan. Avec les Adivasis, qui sont l'un des peuples tribaux d'Inde, des aborigènes en fait, hein, les peuples d'origine, bien avant que les Indo-Européens descendent, qui se retrouvent coincés, si on peut dire, entre une rébellion armée, alors d'obédience maoïste, on les appelle les naxalites, et les forces de sécurité, et puis une troisième force qui sont, eh ben, tout simplement les forces économiques. Et en fait, vous avez, avec Amnesty International, choisi de mettre un coup de projecteur sur une personne en particulier, qui est une femme également, mais qui est aussi et surtout peut-être une chef de village, chef de village élu, traditionnel, hein, de cette communauté Adivasi, et qui se bat depuis des mois, des années même maintenant, pour essayer de faire en sorte que, eh ben, tout simplement, sa communauté ne soit pas expulsée de l'endroit où elle vit, pour construire une ou deux, je crois, deux centrales électriques en plein sur le territoire. Et c'est Gaspard Illich, notre correspondant donc dans le centre de l'Inde, qui nous a préparé ce reportage.
Et il a pu joindre au téléphone Pavitri Manji.
Nos problèmes ont débuté en 2009, lorsque des entreprises ont voulu exploiter l'acier de nos terres et construire ici une centrale à charbon. Beaucoup d'entre nous ont refusé de vendre leurs terres et d'accepter un quelconque dédommagement. Alors une nuit, les hommes du village ont été embarqués dans un camion. On leur a fait boire des alcools très forts et on les a forcés à signer des papiers auxquels ils ne comprenaient rien pendant qu'ils étaient ivres. C'est seulement plus tard que nous avons réalisé que nous avions été spoliés de nos terres. L'entreprise a commencé son travail. Il y a une semaine, la cheminée de la centrale a commencé à rejeter sa fumée toxique. Cela détruit nos cultures de tomates et d'aubergines. Toute la région est polluée. Certaines de nos terres ont aussi été ravagées par les forages pour en extraire de l'acier.
La femme que vous venez d'entendre s'appelle Pavitri Manji. Elle appartient à la communauté tribale Adivasi, un peuple millénaire qui vit sur les terres sauvages d'Inde centrale. Aujourd'hui, les Adivasi sont menacés par de grandes entreprises industrielles qui spolient leurs terres pour récupérer le charbon et l'acier qui s'y trouvent. Pavitri habite une région très isolée, où le réseau téléphonique est aléatoire. Nous avons réussi à la contacter.
Je suis née dans un village appelé Puri. Après mon mariage, je me suis installée dans le village de Kokraoma, où nos terres sont aujourd'hui menacées. Nous considérons la terre comme notre mère, et nous y avons grandi de génération en génération. Nous tirons toute notre subsistance de la terre, le riz, les fleurs de mahoua, les lentilles, tout ce que nous récoltons fait vivre et nourrit nos familles, nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'acheter du riz au marché, faute de pouvoir en cultiver.
Bien que le territoire des peuples tribaux soit théoriquement protégé par la constitution indienne, Pavitri Manji ne peut pas compter sur le gouvernement pour défendre ses droits. Alors, depuis 5 ans, elle a entrepris d'organiser une résistance pacifique et citoyenne.
Le gouvernement, l'administration, les entreprises, c'est la même chose. Ils sont tous main dans la main. Les fonctionnaires locaux sont corrompus. C'est pour cela que rien ne se passe et que l'on ne nous rend pas nos terres. Nous nous battons depuis plus de 5 ans. Nous avons fait des sittings pour empêcher les bulldozers d'avancer. Nous avons organisé des grèves de la faim. Nous nous sommes opposés aux officiers locaux. Beaucoup d'entre nous ont été arrêtés, comme mon fils, qui a passé 25 jours en prison. On lui a demandé pourquoi il continue à s'opposer alors qu'on nous avait donné 10 millions de roupies. Mais c'est un mensonge. Nous avons eu à peine quelques milliers de roupies.
Pavitri, quel genre de pression avez-vous subi?
On nous a dit que si nous nous opposions aux entreprises, nous serions envoyés en prison sans aucun dédommagement. On nous a dit que nos terres seraient confisquées, quoi qu'il en soit, que nos maisons seraient détruites et que notre peuple serait déplacé et qu'il n'y avait rien à faire. Pour l'instant, notre village est encore debout, mais nous craignons qu'il revienne.
Comment comptez-vous continuer le combat aujourd'hui ?
Nous voulons récupérer nos terres, qui sont les nôtres, de génération en génération. Sinon, comment allons-nous élever nos enfants? Nous avons besoin de l'aide de tout le monde. Vous qui nous écoutez, vous pouvez nous aider. Amnesty International nous aide beaucoup. C'est grâce à leur travail juridique que certains de nos terrains ont pu être sauvés. Nous sommes un peuple pauvre et nous n'aurions jamais pu nous battre sans leur aide.
Soutenu par Amnesty International, le combat de Pavitri Manji est devenu un symbole pour beaucoup de militants des droits humains en Inde. Car les terres de Pavitri ne sont pas les seules à être menacées dans le Chhattisgarh. Dans cette région, les peuples tribaux sont pris en étau entre des compagnies minières prédatrices, des fonctionnaires corrompus et des rebelles maoïstes dits Naxalites. Arrivés dans les années 70, ces rebelles, qui prétendent lutter pour les droits du peuple Adivasi, attaquent les forces de sécurité indiennes et ajoutent à la violence de la région. À l'occasion d'une grande marche pour la paix dans la région, nous sommes allés à la rencontre de Shubhranshu Choudhary, un ancien journaliste de la BBC, devenu aujourd'hui militant des droits des peuples tribaux d'Inde centrale.
My name is Shubhranshu Choudhary, I'm a journalist.
Je m'appelle Shubhranshu Choudhary, je suis journaliste. Ici, nous sommes dans le village de Darba, dans le district de Bastar, dans l'état du Chhattisgarh, en Inde centrale. Depuis plus de 40 ans, l'Inde centrale subit un conflit politique armé. Ce conflit oppose la guérilla maoïste, dite naxaliste, et l'État indien. Les maoïstes sont venus ici pour se cacher. Ils se battaient pour le communisme dans d'autres régions de l'Inde depuis longtemps, mais après leurs derniers échecs en 1972, ils se sont réfugiés dans cette forêt. Elle fait des centaines de milliers de mètres carrés. Certains l'appellent l'Amazonie de l'Inde.
Comment est-ce que les choses ont évolué depuis les années 90 où les maoïstes ont choisi de se cacher en Inde centrale ?
Les maoïstes sont venus faire croire que le jour où ils gouverneront, tous les problèmes disparaîtront. Il n'y a donc que 1% des rebelles qui sont vraiment des maoïstes. Les autres, les soldats, les partisans, ils se battent pour leurs droits. Les maoïstes attaquent les forces de sécurité. Les forces de sécurité travaillent pour l'État. Mais c'est aussi évident qu'elles travaillent pour les entreprises. Parce que cette région, c'est le ventre énergétique de l'Inde. C'est ici que l'on trouve tout le charbon, tout l'acier, tout ce dont l'industrie a besoin pour tourner.
Quel est le bilan de ce conflit pour l'instant ?
Selon les estimations du gouvernement indien, 12 000 personnes sont mortes ces 20 dernières années. 2 700 appartenaient aux forces de sécurité et 9300 aux civils, surtout au peuple tribal Adivasi. Mais ce qui se dit ici, c'est que ce nombre est bien plus élevé, parce que beaucoup de tueries se déroulent dans des zones forestières isolées et ne sont jamais comptabilisées. Quoi qu'il en soit, le Chhattisgarh, l'état où nous nous trouvons, est le quartier général des maoïstes, et beaucoup d'habitants sont pris en étau entre les deux camps. Donc, c'est l'enfer. La vie est très très difficile pour beaucoup de gens, et depuis longtemps.
L'enfer. C'est ainsi que Shubhranshu Choudhary décrit le quotidien des habitants du Chhattisgarh. Heureusement pour Pavitri Manji, les maoïstes ne sont pas vraiment implantés aux alentours de son village. Mais nous avons rencontré le chef d'une des tribus Adivasi qui témoigne de sa situation au cœur de ce conflit.
Je m'appelle Sida Marju, je suis le chef de la communauté Adivasi du Telangana. 18 membres de notre communauté sont venus se joindre à cette marche. Nous marchons parce que le conflit entre les maoïstes et le gouvernement prend une tournure de plus en plus violente. Et nous, les Adivasi, sommes ceux qui en payent le prix. Nous voulons mettre fin à cette situation. Plutôt que de dépenser de l'argent dans les forces de police, le gouvernement devrait investir dans le développement. Il devrait avoir de la compassion, de l'amour pour notre peuple, afin que son sort s'améliore. 97 membres de ma communauté ont été tués dans cette guerre entre les Naxalites et les forces gouvernementales. La plupart du temps parce que l'un des camps nous désigne comme des informateurs pour l'autre camp.
Parmi les participants à la marche pour les droits des Adivasi se trouve Rohit Prasad. Cet économiste, basé à New Delhi, a écrit un livre sur la région « Blood Red Rivers », des rivières rouges de sang. Rohit, à qui appartient ce sang et qui le fait vraiment couler ?
This is the blood of the ordinary people of India.
C'est le sang des citoyens ordinaires dont les vies sont détruites par l'industrialisation, l'exploitation minière, la mondialisation.
I focus the story on Chhattisgarh. In particular,
mon livre se concentre sur le Chhattisgarh, en particulier sur la vie des Adivasi. Ce peuple habite ces terres depuis des centaines de milliers d'années. C'est une des régions les plus riches en minerais de l'Inde et même du monde. Mais les gens qui vivent sur le sol sous lequel repose ce minerai sont privés des droits humains fondamentaux. C'est ça le paradoxe du Chhattisgarh.
Qui sont les protagonistes de cette guerre ? Est-ce que c'est vraiment aussi simple que le gouvernement contre les maoïstes ?
The only thing that is absolutely clear in this conflict.
La seule chose qui est absolument claire dans ce conflit, c'est que les habitants de la région sont les perdants. Soit le gouvernement les accuse d'être des sympathisants maoïstes, les jette en prison, les assassine lors de fausses escarmouches, les déplace dans d'autres États. Soit les maoïstes les traitent d'informateurs, les menacent, les battent, les tuent. Pour le peuple Adivasi, c'est donc pile tu gagnes, face je perds. Maintenant, est-ce que ces deux belligérants eux-mêmes sont vraiment des ennemis ou sont de faux ennemis ? C'est une question ouverte. Souvent, pour mener à bien leurs projets, le gouvernement et les compagnies minières doivent verser de l'argent à la fois aux maoïstes et aux fonctionnaires corrompus. Les politiques gagnent par ailleurs un grand nombre de voix durant les élections en prétendant être anti-maoïste et mener des actions coup de poing. Il est donc certain que les fonctionnaires tirent de nombreux avantages personnels de la présence des maoïstes.
Parlez-nous un peu plus de ces entreprises, de ces multinationales qui opèrent sur le sol du Chhattisgarh.
The government, of course, ensures for the private company.
Le gouvernement, c'est évident, permet aux entreprises de spolier injustement des terres aux habitants. Les forces de sécurité assurent que les contestations locales, a fortiori si elles sont liées aux maoïstes, soient réprimées. Le gouvernement et les compagnies minières dorment dans le même lit.
Comment assurer un développement durable et amener la paix en Inde centrale ? Pour le journaliste Shubhranshu Choudhary, c'est en respectant les droits constitutionnels des peuples tribaux et en répondant à leurs besoins que l'Inde pourra offrir un avenir à cette région. Sans cela, la situation pourrait bien s'aggraver pour ses habitants.
Il y a un état plus au nord qui s'appelle Jharkhand. Là-bas, le mouvement maoïste a complètement dégénéré. On y compte des dizaines de factions maoïstes, et beaucoup d'entre elles travaillent pour des sièges d'entreprises, des forces de sécurité ou des compagnies minières. Leur colonne vertébrale idéologique s'est effritée. Et ces maoïstes, au fil du temps, ont donné naissance à une génération de mercenaires qui ont goûté au sang, qui ont goûté au pouvoir. Cela a viré en guerre des gangs. Ici, pas encore. C'est pour cela que nous organisons cette marche pour la paix, parce que nous craignons que le Chhattisgarh ne prenne la même route que le Jharkhand. Nous avons une fenêtre d'opportunité, nous devons l'utiliser.
Mais toutes ces personnes qui rejoignent les maoïstes, est-ce qu'ils n'ont pas des raisons légitimes d'être en colère ?
Vous avez parfaitement raison. Les peuples tribaux ont été trahis et leurs droits n'ont pas été respectés. Alors ils doivent se battre. Mais lorsqu'ils se battent aux côtés de groupes qui réclament quelque chose d'anticonstitutionnel, ils n'obtiennent pas ce qui devrait leur revenir. Ce qu'il faut faire, c'est négocier les droits des 99% des habitants d'Inde centrale. Ça, c'est faisable. Un jour, je parlais au plus haut des gradés maoïstes parmi les tribaux. Il a commencé à me baratiner. Nous nous battons pour le communisme, nous nous battons pour le socialisme, nous voulons amener l'égalité, nous voulons être la Chine, la Russie, blablabla. Mais en passant plus de temps avec lui, il en est venu à de vraies préoccupations. Nous n'avons pas de professeurs dans nos écoles, notre langue n'est pas respectée, nous ne sommes pas traités comme des êtres humains. Tout cela, ce sont des droits constitutionnels que n'importe quel gouvernement indien doit écouter et assurer. Voilà ce que nous réclamons pour la région.
Pavitri Manji, la cause des aborigènes du Chhattisgarh, un reportage de Gaspard Illich, réalisation Annie Bro. Cécile Coudriou, on parle là d'un peuple autochtone qui a une langue spécifique, qui vit dans des forêts. Comment est-ce qu'Amnesty International fait pour les soutenir et pour se tenir au courant de leur situation?
Alors, d'une part, ça illustre parfaitement l'élargissement de notre mission, puisqu'on est quand même plus connu au départ pour la défense des droits civils et politiques. Et là, on se rend bien compte qu'il y a aussi le droit à la terre, par exemple, parfois le droit à vivre dans un environnement sain. Et donc, ce sont bien des droits économiques, sociaux et culturels. Donc, effectivement, nous défendons les peuples autochtones et leurs droits fondamentaux à ne pas être discriminés, à vivre dignement là encore. Et c'est très important, comme on le voit dans le reportage, que des ONG mondiales puissent appuyer un combat local. C'est un petit peu, on pourrait dire, la métaphore de David contre Goliath. Donc on cherche à être du côté de David, évidemment, et d'armer sa petite fronde, même si c'est de manière pacifique. Donc c'est un travail qui peut prendre plusieurs formes. D'une part, la mobilisation citoyenne mondiale peut appuyer notre propre travail de plaidoyer auprès des autorités. Mais il y a aussi un aspect juridique. Parfois, ça va aussi jusqu'au contentieux. Donc, on peut aider des peuples qui, sur le plan local, n'auraient pas les moyens, ni financiers, ni autres, d'ailleurs, de pouvoir porter en justice une affaire. Et donc, c'est véritablement ce lien du local au global qui donne davantage de pouvoir et davantage de force à leur combat.
Mais très concrètement, comment est-ce qu'il se fait, ce lien, justement? Comment est-ce que ces personnes finissent par savoir que vous existez? Comment est-ce que vous avez connaissance de leurs difficultés?
Bien, effectivement, ils rentrent en contact avec la branche d'Amnesty International la plus proche d'eux. Et puis nous envoyons des chercheurs sur le terrain pour bien sûr constater en toute impartialité des violations des droits humains, avoir des preuves, écrire des rapports. Et c'est à la base de ces rapports-là qu'ensuite nous pouvons à la fois mener un travail de plaidoyer et de mobilisation. Et parfois, c'est moins connu, mais c'est très important, notamment quand nous prenons pour cible les entreprises, d'avoir également des actions de contentieux. Pour vous donner un exemple, au Nigeria, c'était il y a 4 ans, si je me souviens bien, l'entreprise Shell avait vraiment dévasté l'environnement dans le delta du Niger. Eh bien, c'est Amnesty International qui a pu porter l'affaire en justice et obtenir d'ailleurs gain de cause en partie. Je dis en partie parce qu'il y a eu des dédommagements, mais malheureusement, il n'y a pas eu encore de nettoyage du site. Donc, c'est pour vous donner un exemple concret du fait que la puissance d'une ONG mondiale peut aider effectivement des personnes qui ont tout simplement envie de vivre dignement et qu'on ne massacre pas leur environnement.
Mais dans le cas de Pavitri Manji et de son village, on voit que la situation est quand même particulièrement complexe. Il y a l'État indien, il y a les grandes entreprises, il y a des maoïstes armés. Ça semble quand même assez difficile d'agir et de faire évoluer la situation.
C'est vrai que c'est extrêmement complexe parce que déjà la cible entreprise est particulièrement difficile. Souvent ce sont des multinationales donc, qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'avocats eux aussi. Donc il faut déjà faire attention à comment on aborde l'affaire. Et puis lorsqu'il y a effectivement des conflits politiques qui s'additionnent, ça complexifie beaucoup l'affaire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait qu'on mette en lumière des violations des droits humains de ce type-là donne une légitimité aussi à leur combat. Et lorsqu'on cherche à l'instrumentaliser, à le politiser, alors que le combat de cette femme, évidemment, on peut dire politique dans le sens où tout est politique, mais c'est avant tout pour tout simplement garder le droit à la terre, garder la possibilité en tant que peuple autochtone de vivre avec ses traditions, de vivre sans discrimination. Donc ça, au regard du droit international, c'est parfaitement légitime. Donc nous avons tout notre rôle à jouer pour appuyer ce combat-là.
Et ce travail justement d'appui, vous le faites en réseau avec d'autres ONG?
Oui, alors bien sûr, d'une part, je le répète, des liens entre des ONG ou associations locales et nous. Et puis il y a également d'autres ONG comme Human Rights Watch, par exemple, qui parfois font elles aussi leurs recherches indépendantes et qui peuvent croiser en fait nos informations. Donc nous travaillons en bonne intelligence, en complémentarité en somme.
Katia Roux, sur ces droits relatifs aux terres et territoires, il y a d'autres dossiers que celui qu'on vient d'évoquer, bien sûr. Je pense notamment au Kenya. Mmh. Où là, vous ne soutenez pas une femme, mais un peuple autochtone.
Absolument, le peuple Sengwe au Kenya, effectivement, qui, de la même manière, finalement, que Pavitri ou encore Nonle Mbutuma en Afrique du Sud, voit ses droits d'accès à la terre et ses droits fonciers totalement bafoués. Ça se traduit très concrètement par, bien sûr, des menaces, bien sûr, une violence, mais surtout des expulsions. Il faut comprendre ce que veut dire ces expulsions. Ça veut dire on prive des communautés locales de leurs terres vivrières, de leurs terres ancestrales, de leurs moyens de subsistance et de leurs traditions. Et quelque part, elles n'ont plus rien. Elles n'ont plus d'accès et effectivement en face on se retrouve avec des entreprises, avec des États, avec des gouvernements locaux qui se rejettent mutuellement la responsabilité. Sauf que cette responsabilité elle n'est pas exclusive, elle est partagée. Donc il faut bien aller voir derrière effectivement ces violations des droits à la terre, c'est fondamental. Qui sont les responsables derrière et de porter cette demande qui, finalement, dans ces trois cas que l'on cite aussi dans 10 jours pour signer, reviennent à demander un consentement libre, préalable et éclairé auprès de ces communautés locales. Ces communautés locales doivent être associées pour tout projet de cette envergure en amont, pendant et après la phase de projet. Sinon, ces droits seront toujours bafoués.
Donc là, il y a plusieurs choses en ce qui concerne ce peuple Sengwer. C'est que, d'une part, on veut les expulser. Et d'autre part, on dit que c'est au nom de l'environnement. On prend cet argument de dire c'est au nom de la défense de l'environnement qu'il faut que vous en alliez, alors qu'ils sont là depuis des siècles et qu'ils n'ont pas l'air de faire tellement de mal à l'environnement.
Oui. Absolument. C'est toute cette logique de justifier, parfois par l'absurde, effectivement, une décision qui se traduit par des violations de droits humains et qui n'est basé sur rien. Il n'y a aucune preuve. Et c'est souvent le cas, que ce soit des persécutions judiciaires, que ce soit des expulsions forcées, que ce soit des stigmatisations. On va faire passer effectivement les défenseurs visés pour des ennemis de l'intérieur, des perturbateurs, des terroristes, que sais-je. On trouve une raison, on fabrique des preuves, on justifie par des raisons qui sont parfois même contradictoires, comme vous venez de le mentionner.
Parce que ce sont des éleveurs et des apiculteurs.
Hein. Absolument. Et parce que, voilà, on ne voit pas qui pourrait être le plus respectueux de la terre. Effectivement, dans l'exemple de ce peuple-là, il participe plutôt à la biodiversité locale que l'inverse. Donc, effectivement, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. On peut facilement les démonter. Et pour autant, ce sont plutôt les entreprises et ces gouvernements qui, in fine, obtiennent gain de cause. Et il est très difficile d'aller contre ça. Et alors même que ce sont ces entreprises et ces gouvernements qui ont aussi en premier lieu la charge de protéger les ressortissants et celles et ceux qui défendent les droits. Donc on est là dans une situation complètement ubuesque où les personnes, les acteurs qui attaquent les activistes et les peuples sont ceux-là même qui devraient les protéger.
Et en Afrique du Sud, c'est la même équation ?
Absolument. En Afrique du Sud, c'est la même équation. Ce sont là 5000 personnes qui pourraient être expulsées de leur terre vivrière, encore une fois. Et donc, on a mis en avant le combat de Nonle Mbutuma parce que elle est effectivement assez emblématique. Elle a d'ailleurs pour ça été visée. Elle a échappé à une tentative d'assassinat. Elle continue à faire l'objet de menaces de mort et pour autant, elle reste déterminée. Elle continue à mener ce combat-là puisque cette terre, c'est tout pour ces communautés locales-là.
Et elle s'oppose à un projet d'extraction de titane.
Absolument, par une entreprise australienne, absolument, qui effectivement expulserait ces 5000 personnes et il faut voir effectivement toutes les conséquences qu'il y a derrière. Donc ces personnes restent toujours déterminées et bien souvent on a eu des témoignages de personnes qui se battaient pour leur droit à la terre, des terres qui avaient été accaparées ou d'autres grands projets avaient déjà été développés. Et quelque part, ces personnes parfois savaient qu'elles ne pouvaient pas récupérer leurs terres mais continuaient à se battre parce que c'était la seule chose juste à faire.
Cécile Coudriou, vous évoquiez tout à l'heure Marielle Franco, la Brésilienne qui a payé son combat de sa vie. Mmh. Quels sont aujourd'hui les pays les plus dangereux pour les militants des droits humains ?
Malheureusement, ils sont très nombreux. On va avoir du mal à faire une sorte de classement. D'ailleurs, on ne fait pas de classement à Amnesty International.
Dans le cas du Brésil,
on est évidemment très inquiet, bien sûr, avec l'élection de Bolsonaro. Il y a des tendances lourdes à l'échelle mondiale hein, pour des leaders qui se présentent comme des hommes forts et qui se détournent de manière extrêmement décomplexée en fait des droits humains et qui malheureusement ont un pouvoir de séduction auprès des populations. Il faut le rappeler, ils ont été élus. Donc c'est pourquoi tout notre travail consiste aussi à Amnesty International à sensibiliser les populations au plus près du terrain possible pour leur montrer à quel point c'est bien souvent totalement illusoire, hein, ces hommes forts qui prétendent protéger les populations, soit contre l'influence de l'Occident, soit contre le terrorisme, encore une fois, beaucoup d'instrumentalisation de ce type de problématiques. Et donc c'est très difficile, mais on a bien sûr beaucoup d'énergie pour le faire malgré tout, parce que nous savons que les militants sur le terrain ont besoin de nous. C'est-à-dire, au Brésil, ils sont aussi absolument déterminés, malgré l'élection, hein, à poursuivre leur combat. Il est très important que nous soyons tous là pour les soutenir.
Et la première campagne 10 jours pour signer des vies remonte à 16 ans. Si elle est renouvelée chaque année, ça veut dire qu'elle a un effet?
Absolument. Nous avons des résultats et tous les ans, nous les valorisons pour justement bien convaincre les citoyens que leur signature a du pouvoir, que le soutien qu'ils peuvent apporter aussi sur le plan moral et psychologique aux défenseurs a aussi beaucoup de pouvoir, fait réellement une différence. Pour donner un exemple sur l'année dernière, c'est le Tchadien Mahadine, un blogueur qui avait été condamné et torturé d'ailleurs pour avoir osé critiquer le gouvernement et l'accuser de corruption, et bien a enfin été libéré. Donc nous avons chaque année des bonnes nouvelles. Parfois ce sont des demi-bonnes nouvelles aussi, mais en tout cas des progrès sont vraiment à noter. C'est pourquoi il faut continuer. On compte sur vous tous. Il y a encore quelques jours pour signer avec nous.
Merci Cécile Coudriou, merci Katia Roux. 10 jours pour signer, la campagne d'Amnesty se poursuit jusqu'au 10 décembre et lundi sera publié votre rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde. Le grand reportage de cette semaine était coordonné par Eric Biegala, réalisation Annie Bro, avec Kevin Boisseau à la technique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.